Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, je suppose, à quelque chose d'un peu plus concret, puisque André Amblès vient nous parler de la chimie des sols. Alors, André Amblès est né en 1947, il est docteur en sciences physiques. Il a fait sa carrière de professeur et d'assistant, maître de conférences et professeur à l'université de Poitiers, avec bien sûr en cours de route de multiples collaborations avec des universités étrangères, Rabat, Kinitra, Belgrade, Neuchâtel, ou des centres de recherche à l'étranger. Bien sûr, ça va de pair avec son sujet de recherche. Il est professeur donc à l'université de Poitiers, chef du département chimie de l'Institut universitaire de technologie de Poitiers, directeur de la formation chimie appliquée de la faculté des sciences et responsable du thème de recherche géochimie organique, qui est une idée mixte de recherche du CNRS. Sa spécialité, c'est évidemment l'étude de la matière organique rémanente des sols, donc il vous en dira plus. Il est membre de nombreuses associations savantes et il est l'auteur de publications, essentiellement des publications scientifiques techniques dans des revues spécialisées. Je vais donc lui donner la parole pour 50 minutes et après il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup Monsieur Michaud. Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous et vous dire toute ma joie de parler devant un auditoire aussi nombreux. Et je voudrais, avant de commencer, remercier l'Université de tous les savoirs et M. Michaud de m'avoir invité pour parler de ce thème, de cette recherche qui m'est si chère depuis un peu plus de 20 ans, qui concerne donc la chimie des sols, mais plus précisément la chimie organique des sols. Bien, alors, avant de commencer très rapidement, voici le plan de mon exposé. Après une introduction assez brève, nous verrons quelques généralités sur la matière organique présente dans les sols en essayant de répondre à 5 questions. Ensuite, nous étudierons le rôle de la matière organique dans les sols sur les propriétés chimiques, physiques, biologiques, etc. Ensuite, nous aborderons une étude qualitative, une étude structurale, mais rassurez-vous, qui sera assez légère. Et enfin, comme le cycle de conférences concerne la chimie, sciences et transformations, eh bien, nous étudierons les mécanismes de transformation de la matière organique dans les sols et la possible utilisation du sol pour l'élimination des déchets possibles ou posant des problèmes. Bien. Alors donc, le sol est un milieu essentiel pour de nombreux êtres vivants. Il constitue un véritable réacteur biologique dont les principaux processus concernent la matière organique qu'il contient. Il joue hélas un rôle d'interface un certain nombre de problèmes de pollution et en fait il est très mal connu encore des hommes. Les travaux qui le concernent, les recherches menées sur la structure de sa matière organique ne datent que d'environ 20 à 25 ans, hein, c'est dû au progrès des techniques analytiques. Et les études ont un intérêt fondamental certain, mais également un intérêt appliqué. Et ce soir, j'insisterai un peu plus sur les intérêts appliqués, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile à exposer. Alors, intérêt appliqué, parce que le sol est soumis de plus en plus à des pressions. En effet, les pays industrialisés ont développé l'agriculture intensive. Ensuite, on a réduit la diversité des pratiques culturales. L'abus de la monoculture a aussi été observé. Les engrais minéraux sont massivement utilisés au détriment des fumures ou compost organique. Et en fait, les taux de matière organique des sols tendent à diminuer, ce qui commence à poser un certain nombre de problèmes. En effet, comme on le verra, la matière organique constitue un substrat indispensable pour la microflore du sol, pour les êtres vivants dans le sol, et elle conditionne très fortement les propriétés physiques et biologiques de ces sols. Donc, afin que le capital sol ne soit pas compromis à moyen ou long terme, eh bien, il importe de mieux connaître ces processus de fonctionnement et donc de mieux connaître les formes de matière organique qu'il contient. Bien. Alors, le premier point concerne donc des généralités sur la matière organique des sols. Et tout d'abord, quelle est l'origine de la matière organique des sols? Alors, au départ, on a la photosynthèse. La photosynthèse qui est qui concernent les végétaux, essentiellement les végétaux supérieurs, donc qui vont transformer des formes minérales de carbone, donc sous forme de CO2, dioxyde de carbone, en molécules organiques nécessaires pour leurs tissus, tous leurs constituants, les tiges, etc. Il faut noter que les végétaux sont absolument incapables d'utiliser ou de transformer leurs débris organiques. Ils ne peuvent utiliser que des formes minérales. Donc ce sont ce qu'on appelle des autotrophes qui puisent dans le monde minéral tout ce dont ils ont besoin. Le nécessaire recyclage de la matière première, des matières premières, excusez-moi, implique l'existence d'hétérotrophes, hétérotrophes qui vont pouvoir transformer ces résidus ou ces molécules organiques. Donc ils vont l'utiliser comme matière première et comme source d'énergie. Et ça va être la notion de chaîne alimentaire. Donc si les végétaux sont producteurs, il y aura des consommateurs, il y aura des décomposeurs. Ensuite, la microflore qui est présente dans le sol pourra transformer un certain nombre de résidus végétaux ou animaux, par exemple les litières, etc. Et tous ces acteurs vont respirer, c'est-à-dire qu'ils vont transformer du carbone organique en carbone minéral sous forme de CO2. Alors, il y a un certain nombre de classes, de catégories de matières organiques dans les sols. Les plus persistantes dans les sols sont les lipides et les substances humiques. En effet, protéines, polysaccharides sont généralement très rapidement décomposées dans les sols. Alors, juste une parenthèse pour indiquer que dans certains milieux, la matière organique ne se dégrade pas facilement. En effet, par exemple, dans des sols gorgés d'eau, dans des marais, les conditions sont défavorables à l'activité des micro-organismes. Et donc, la matière organique tend à s'accumuler. Ce sont les marais, ce sont les tourbières qui pourront donner du charbon quelques millions d'années plus tard. Alors, la décomposition des résidus animaux et végétaux est une somme de processus biologiques. Alors, une partie du carbone va être assimilée dans les tissus microbiens, champignons, bactéries, etc., et donc va faire partie de la biomasse du sol. Une autre partie, comme nous le verrons, sera transformée en des formes stables que l'on appelle humus. Et une autre partie va être minéralisée, par exemple le carbone sous forme donc minérale, CO2, l'azote sous forme de nitrate ou d'ammonium, le soufre sous forme de sulfate, le phosphore sous forme de phosphate. Je rappelle que ce sont les seules formes utilisables par les végétaux. Dans des conditions anaérobies, par exemple dans des sols gorgés d'eau, encore une fois, eh bien, évidemment, le carbone ne sera pas libéré sous forme oxydée, mais sous une forme réduite, c'est CH4, c'est le méthane, ce sont les feux follets, ce sont les gaz des marais, et avec, évidemment, un certain nombre de molécules soufrées à l'odeur tout à fait caractéristique. Alors maintenant, quelles sont les concentrations de carbone organique dans les sols? C'est la deuxième question. Alors, inutile de vous dire que ces concentrations sont extrêmement variables. Ça dépend de la nature du sol, des climats, etc. Bon, pour nos sols, une bonne moyenne correspond à 5 à 6% du poids en sol sec du sol. Sol sec, ça veut dire sol séché à 105 degrés. Dans les sols sableux, qui sont généralement plus minéraux, l'activité biologique est réduite et la matière organique correspond à moins de 1%. Dans le cas de sols pauvres, mal drainés, par exemple les sols de Podzol des Landes du Médoc, ça peut correspondre jusqu'à 10% du poids du sol sec. Bon, on peut aussi parler des tourbières, là, qui sont des cas particuliers, puisque la matière organique peut atteindre 85 à 90% du poids de sol sec. Alors, dans les sols tropicaux, les teneurs sont très faibles. En effet, les conditions de température et d'humidité font que la matière organique a un turnover, une vitesse de dégradation beaucoup trop rapide. Et c'est un problème pour les sols tropicaux. C'est également déjà un problème pour les sols au niveau du Maghreb. Alors, il y a un parallèle entre carbone et azote. Et généralement, on estime qu'on établit des rapports C sur N. Et pour nos sols, on a des moyennes de 10, 12, 14, donc pour les rapports C sur N. Ça, c'est une notion qui est importante pour les agronomes. Alors, on peut comparer ces quantités de ces teneurs, si vous voulez, à divers réservoirs présent sur la planète Terre, tout d'abord en surface, puis en profondeur. Le taux de la quantité de matière organique des sols est estimée à 30 à 50, c'est difficile bien sûr, 10 puissance 14 kg, et on peut constater que ce réservoir matière organique sol est supérieur à la somme des réservoirs carbone minéral ou organique d'ailleurs en surface. Évidemment, au niveau de la profondeur, les quantités sont beaucoup plus importantes. Ça correspond à des formes immobiles, hein, charbon, pétrole, etc. Et le dernier chiffre ici qui concerne les sédiments est pour une très grande part du carbone minéral des roches. Alors, un certain nombre de facteurs vont conditionner la teneur en matière organique des sols. Bon, tout d'abord, il y a le temps, mais je ne développerai pas parce que je pense que ce n'est pas très intéressant. Le climat est sans doute plus intéressant puisque la notion de climat au sens très large va conditionner la nature des plantes, la productivité végétale, l'activité microbienne. Alors, si on a un climat humide, on favorisera, bien sûr, les forêts seront favorisées. Si l'humidité est suffisante, la production végétale est bonne, voire accrue. Si la température augmente, l'activité de la microflore du sol augmente, et donc le taux d'humus ou de matière organique diminue. Bon, sous nos climats, et à titre d'exemple, une litière sous forêt, donc d'un an, met une année pour se décomposer. Dans les sols tropicaux, comme je l'ai dit, il n'y a pas de litière. La troisième question concerne le devenir du carbone organique dans les sols. Alors, ce point fait l'objet de très nombreuses études, encore à l'heure actuelle, et on fait appel généralement à des substrats marqués au carbone 14. Alors, je vais juste résumer l'ensemble des travaux. En se basant sur les seules vitesses de décomposition, on distingue trois types de matières organiques. Tout d'abord, des résidus végétaux ou des fumures apportées, ainsi que la biomasse associée, qui vont avoir des décompositions de l'ordre de 4 à 5 ans, quelques années, hein, ça ne dépasse pas 5 ans en principe. La deuxième catégorie concerne les métabolites microbiens, des métabolites cellulaires, des produits de transformation qui vont se stabiliser, mais avec des guillemets, dans les sols et avoir un turnover de 5 à 25 ans. La dernière catégorie, et c'est le point le plus important, c'est une matière organique transformée, devenue résistante, qui va avoir un turnover de 250 à 2500 ans. Donc on arrive à la notion d'humus ou de composé humique, c'est-à-dire des composés plus stables que les débris végétaux ou animaux, vis-à-vis de l'activité originelle, donc vis-à-vis de l'activité de la microflore du sol. Ce processus est appelé humification. Et en fait, évidemment, cet humus n'est pas stable dans les sols actifs, c'est-à-dire qu'il va se décomposer plus ou moins rapidement et il va apparaître un humus nouveau au fur et à mesure de la disparition de l'ancien. Quatrième question, quels sont les agents responsables de ces transformations dans le milieu sol ? Eh bien, on a un certain nombre d'organismes ou de micro-organismes. Tout d'abord, des animaux du sol et en particulier des vers de terre qui jouent un rôle extrêmement important. Donc, ils réduisent la taille des résidus, des débris végétaux frais. Et les vers de terre jouent un rôle extrêmement important. En effet, ils excrètent un mélange intime de matière minérale et de matière organique qui correspond déjà à un pré-humus. Les termites, on note la même chose pour les termites, pour la fabrication des termitières. Alors, ensuite, il va y avoir attaques microbiennes. Tout d'abord, les bactéries, hein, qui représentent au moins 1 milliard d'individus, si je puis dire, par gramme de sol, voire davantage. Les champignons, 10 à 20 millions. Les actinomycètes, plusieurs centaines de millions. Hein, les actinomycètes sont des espèces intermédiaires entre bactéries et champignons. Et donc, les substances organiques les plus facilement utilisables, donc, vont être utilisés, ce sont les sucres, ce sont des lipides à chaîne carbonée pas très longue. Le carbone, comme on l'a vu, va être en partie métabolisé, c'est-à-dire qu'il sert d'énergie. Il va être en partie utilisé pour les synthèses cellulaires de l'ordre de 10 à 20% hein, en moyenne. Donc il sert de matière première et une autre partie est transformée en humus, donc en quelque chose de particulièrement résistant. Le cinquième point, on a parlé de temps. Est-ce qu'on peut définir un âge moyen ? Alors, il faut savoir que l'on ne peut pas déterminer d'âge absolu au niveau de la matière organique des sols, puisque, en effet, il y a des compositions continuelles de l'humus, au sens très large, avec apparition d'un humus nouveau. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir définir uniquement un temps moyen, et c'est la notion de temps de résidence. Alors, la variabilité est assez grande, c'est de l'ordre, c'est compris entre 250 ans et 1900 ans. Ça, ceci étant, pour les horizons de surface. Pour les horizons de profondeur, en profondeur, eh bien, le temps est beaucoup plus long, tout simplement parce que les conditions d'oxygénation, etc., sont peu favorables, moins favorables qu'en surface pour l'activité biologique, et donc, évidemment, la matière organique est moins vite décomposée. Alors, j'ai un exemple pour un sol du Canada, avec un horizon de surface, c'est généralement les 15 premiers centimètres, avec un temps de résidence moyen de 550 ans, et on passe à 8000 ans, à peu près 1 mètre de profondeur. Alors, ce temps de résidence varie également selon la nature de la matière organique, et là, je vais anticiper un petit peu. Par exemple, l'humine, dont on verra que c'est la forme la plus résistante de matière organique, et a un temps beaucoup, beaucoup plus long que les lipides, qui sont généralement, en principe, biodégradés assez rapidement. Également, les fractions de matière organique adsorbées aux argiles, sur les argiles, piégées dans les feuillets, vont être protégées des attaques microbiennes, et donc, souvent, auront des temps très longs, de l'ordre de 8000 ans. Bien, alors après ces aspects assez généraux, nous allons passer au deuxième point, le rôle de la matière organique dans les sols. On a déjà dit un certain nombre de choses. Donc, la matière organique dans les sols conditionne les propriétés chimiques, physiques et biologiques de ces sols. Alors tout d'abord, les propriétés chimiques, eh bien, comme je l'ai déjà dit, la matière organique représente le stock de carbone, d'azote, de phosphore et de soufre. Alors au niveau de ces éléments, il y a généralement des équilibres. Par exemple ici, pour le phosphore P et le soufre S, il y a un équilibre entre la forme organique qui peut se minéraliser pour donner des phosphates, ou au contraire, le phosphate peut s'immobiliser sous forme de phosphore organique. On arrive bien ici à la notion de stock, bien sûr. Hein. Et c'est absolument la même chose dans le cas du soufre. Alors je rappelle que juste uniquement les formes minérales sont utilisables par les végétaux supérieurs. Alors ces équilibres, c'est un petit peu compliqué, sont régis par un certain nombre de paramètres, mais bon, on peut retenir que chaque élément ne se comporte pas indépendamment. Hein. En fait, carbone, phosphore, soufre, azote, tout ceci est très lié. Et interviennent des rapports C sur P, carbone sur phosphore, carbone sur soufre, etc. Maintenant, au niveau des propriétés biologiques, donc on a déjà vu que la matière organique était une source de carbone et d'énergie pour les micro-organismes lors de la synthèse de leurs tissus. Alors, il faut quand même dire que certaines molécules naturelles peuvent jouer un rôle néfaste dans les sols. En effet, si vous prenez des forêts de pins maritimes, par exemple dans les Landes du Médoc, j'en parlerai, hein, puisqu'on a travaillé sur ces échantillons, il y a un certain nombre de terpènes qui sont des molécules toxiques, qui jouent un rôle inhibiteur sur la germination des graines, sur la croissance des végétaux, et qui sont également toxiques envers la microflore. Donc la microflore travaille plus difficilement, la matière organique tend à s'accumuler, et c'est de la mauvaise matière organique, si on veut. Enfin, les propriétés physiques, la matière organique joue un rôle sur la stabilité structurale des agrégats de sol, sur la cohésion des agrégats de sol. Alors j'ai un petit schéma, c'est vraiment pas très bien fait, c'est très schématique, c'est le cas de le dire. Hein. Alors la matière organique joue le rôle, alors elle est représentée par les petits tortillons, par exemple le rôle de liant entre des particules minérales, ou le rôle de liant entre une particule minérale et des argiles, bon, je distingue, hein, ou entre des blocs d'argile, par exemple ici. Hein. Donc c'est très, très, très schématique, mais enfin, c'est quelque chose qui est très important. De même, la matière organique conditionne l'aération du sol. De la même façon, elle intervient également sur la capacité du sol à retenir l'eau ou sur les processus de circulation de l'eau dans le sol. Et là, on comprend sans doute mieux pourquoi certaines pratiques culturales modernes, agriculture intensive, monoculture, utilisation massive d'engrais minéraux, au détriment de compost ou fumure organique, comme je l'ai dit, désherbage systématique, arasement, déboisement, ont des conséquences si néfastes. En effet, les exportations de carbone organique dues aux récoltes ne sont pas compensées par des fumures organiques, et donc le taux de matière organique, comme on l'a vu, diminue, et l'érosion va pouvoir se développer. C'est un problème très connu dans les pays USA, Canada, mais c'est un problème qui est signalé en France et qui est assez sérieux. C'est une érosion éolienne, puisqu'il y a moins de ciment entre agrégats de sol. C'est également une érosion sous l'effet de l'eau, hein, puisque l'eau tombe, pénètre mal dans le sol, puisqu'on a un défaut de matière organique, et a tendance à arracher, à entraîner le sol. Évidemment, le problème est aggravé par la suppression de protections physiques contre le vent, ou les bois, les haies, ou le désherbage systématique, par exemple, entre les rangs de vignes, que les anciens pratiquaient couramment, qui jouent un très grand rôle pour produire la matière organique et également freiner un petit peu l'eau. Le problème a été signalé très récemment dans les coteaux du Sancerrois. Bien, alors cette matière organique, on en parle beaucoup. Mais quelle est-elle? Eh bien, on va donc procéder à une étude qualitative, pas très compliquée, j'espère, de la matière organique des sols. Rassurez-vous, il y a encore beaucoup à faire, donc ça veut dire que beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Alors tout d'abord, les formes de matière organique persistantes dans les sols, ne faites pas trop attention à ce schéma, ce sont les lipides et les substances humiques. Alors les lipides, par définition, c'est quelque chose que l'on peut extraire avec un solvant organique, de l'éther, du chloroforme, n'importe quel solvant organique. Donc, on a en fait deux stocks, on prend un échantillon de sol, on extrait directement avec un solvant organique, on a les lipides dits libres, bon, peu importe, on va en récupérer une seconde partie après altération, destruction des argiles. En effet, les argiles sont capables de piéger des composés organiques, et en particulier des lipides. Ensuite, la destruction des argiles se fait par des traitements acide fluorhydrique, chlorhydrique à froid, en conditions raisonnables. Ensuite, on va procéder à une extraction par de la soude, de la soude une fois normale, à froid, et on va extraire une partie des substances humiques, ce qu'on appelle les acides fulviques et les acides humiques. Alors, on peut ensuite séparer ces deux catégories très facilement, on repasse en milieu acide. Les acides fulviques restent en solution. Les acides fulviques vont précipiter, c'est-à-dire qu'on peut les filtrer et les récupérer. Le résidu ultime, c'est l'humine, qui est associé avec la matière minérale restante qui n'a pas été détruite au cours des divers traitements. Alors, je ne veux pas vous ennuyer trop avec ces catégories. Bon, je crois que ce qu'il faut retenir, sous forme de résumé, on a des lipides qui sont solubles dans les solvants organiques usuels, par définition, les acides fulviques qui sont solubles en milieu aqueux, donc en milieu basique et en milieu acide, les acides humiques qui ne sont solubles qu'en milieu alcalin, et l'humine, elle, c'est simple, elle est soluble dans rien. Alors, un point est important, ces catégories ne correspondent pas à des classes définies de composés. Ce sont ce qu'on appelle les compartiments analytiques, ça provient d'un protocole de séparation. Et là, je peux vous affirmer que c'est un problème extrêmement important, extrêmement gênant pour les scientifiques quand on parle de substances chimiques. Mais pour l'instant, on n'a pas de meilleure définition, on n'a pas de meilleur protocole. Donc là, déjà, il y a une incertitude qui est assez gênante. Alors, les proportions de ces diverses catégories varie beaucoup d'un sol à un autre. Je vous ai donné ici trois exemples. Deux échantillons du marais poitevin. Alors, c'est une tourbe calcique, pH voisin de 7. et un sol tourbeux, ce n'est pas tout à fait une tourbe, du plateau de Millevaches, donc vers à l'est de Limoges. Donc on peut constater, bon, on ne va pas entrer dans le détail, que les lipides représentent de 2 à 5% de la matière organique. Bon, on peut quand même dire que dans les sols cultivés, la proportion est un petit peu plus grande, et que généralement, c'est l'humine qui est la forme dominante, suivi par les acides humiques. Bon, je connais d'autres échantillons, ce sont les acides humiques, bon, enfin, qui dominent très légèrement l'humine, ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que les acides fulviques sont généralement, parmi les composés humiques, si vous voulez, sont généralement minoritaires. Alors, ces substances humiques contiennent, et on peut associer les lipides, contiennent de 40 à 60% de carbone, 30 à 50% d'oxygène, environ 5% d'hydrogène. Les acides humiques contiennent moins d'oxygène que les acides fulviques. Ils sont sans doute peut-être d'une nature un petit peu moins acide. Et l'humine, bon, on pense qu'elle a une structure relativement proche de celle des acides humiques, mais si elle est insoluble, c'est probablement dû à des liaisons très fortes avec des métaux et avec des argiles. En fait, je peux ajouter, d'après certains résultats récents, que c'est aussi une complexité structurale croissante. Alors la structure, on a une très large gamme de poids moléculaires de quelques centaines. Alors quelques centaines, ça peut être aussi les lipides, à plusieurs centaines de milliers d'unités de masse atomique. Alors ça, c'est quelque chose qui est considérable. Ce sont vraiment des macromolécules. Donc à titre de comparaison, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ceci, une unité de masse atomique, l'eau c'est 18, le gaz carbonique c'est 44. Le cholestérol, dont on parlera tout à l'heure, c'est 386, et l'acide oléique, acide insaturé, donc présent dans les huiles de table, c'est 282. Alors, le poids moléculaire, donc généralement, augmente dans le sens lipide, acide fulvique, acide humique, humine, donc la complexité structurale, si vous voulez. Ouais. Alors, au niveau des... Il faut savoir que dans les eaux sont présents des composés humiques, essentiellement des acides fulviques et des acides humiques, il n'y a pas d'humine bien sûr, ils ont un poids moléculaire un peu inférieur à ceux présents dans les sols. Alors ça c'est quand même important parce que ça veut dire que ce sont des espèces organiques qui circulent dans l'environnement, qui ont des propriétés complexantes assez importantes vis-à-vis des hydrocarbures, vis-à-vis des métaux, vis-à-vis des pesticides et bon, des nitrates, et ça c'est un des vecteurs également de pollution vers les nappes phréatiques. Bien, alors je vais parler un petit peu des lipides, hein, puisque c'est la classe que l'on connaît le mieux. Bon, là encore, ne considérons pas le détail du schéma. Bon, il faut savoir qu'il y a un certain nombre, donc dans un extrait lipidique, un certain nombre de familles que l'on peut séparer par chromatographie liquide sur gel de silice, que l'on peut analyser par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, en chromatographie liquide haute performance, et que l'on va pouvoir analyser, donc déterminer la structure, essentiellement du fait des mélanges par spectrométrie de masse, et il y aura d'ailleurs demain une conférence sur la spectrométrie de masse, en particulier sur la spectrométrie de masse. Et donc, parmi ces diverses familles, chaque famille contient des centaines de composés, et un certain nombre de ces familles peuvent être caractéristiques d'une origine donnée, c'est ce qu'on appelle des marqueurs. Alors, ainsi, les hydrocarbures, alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés, hydrocarbures, c'est uniquement du carbone et de l'hydrogène. Alors, très rapidement, il faut lire ici chaque angle, c'est un carbone, CH3, CH2, CH2, etc., CH2, CH3. Donc, on a ici un chromatogramme. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque pic correspond à un produit et que les hydrocarbures des végétaux supérieurs sont très majoritairement impairs, donc un nombre impair d'atomes de carbone, avec C27, C29, C31, C33. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Pour les végétaux inférieurs, c'est différent. C'est du C15, C17, c'est un petit peu variable, mais il n'y a pas cette distribution-là. Autre classe intéressante, ce qu'on appelle des méthylcétones. Alors, cétone, c'est un enchaînement carbone-oxygène. Alors, vous voyez, et méthyl, c'est le groupe CH3 qui est ici. Alors, prenons un hydrocarbure, ici, on enlève deux hydrogènes, on remplace par un oxygène, on a fait des méthylcétones. Et en fait, ces méthylcétones, ce sont des produits qui sont absolument absents des végétaux et qui proviennent de l'oxydation des hydrocarbures. Donc généralement, ils auront des nombres impairs d'atomes de carbone. Donc là encore, on a des marqueurs qui sont intéressants. Également les acides gras, que vous connaissez sans doute mieux. Alors voici ici un chromatogramme d'acides gras. Alors ces acides gras sont saturés, c'est-à-dire qu'il y a partout carbone hydrogène, acide COH. Eh bien, on va les avoir ici de C20, par exemple, à C36. Hein, ce sont ces pics-là, 20, 22, etc. Vous voyez que majoritairement, ils sont un nombre pair d'atomes de carbone. Et ça, ils sont caractéristiques des végétaux. C20, C34, C36, c'est caractéristique des végétaux. Pour l'acide C16 palmitique, C18 stéarique, eux, ils sont ubiquistes, on les trouve partout. On a également des acides insaturés, dont on vante les mérites actuellement. Alors, vous voyez, on a enlevé ici deux hydrogènes, on a remplacé par une double liaison carbone-carbone. Alors, il y en a une, il peut y en avoir plusieurs. Ici, c'est l'acide oléique, donc c'est le C18-1 qui est ici. C18, nombre de carbone, 1, c'est le nombre de double liaison. Il peut y en avoir donc 2, 3, etc. Et également, intéressant, les acides ramifiés. Donc, vous voyez que la chaîne n'est pas linéaire. Alors, ça, c'est un acide de type iso, anti-iso. Hein, donc, le méthyl est sur l'avant-dernier carbone ou encore avant. Alors, ces acides-là sont jamais très abondants. Ils sont ici. Hein. Ici, c'est 15. On en a ici un C17. Ils sont, eux, typiquement bactériens. Absolument pas présents dans les végétaux. Donc, ça, ça va nous servir, quand on va essayer d'étudier les composés humiques, de savoir d'où proviennent ces composés humiques. Alors, on a également des diacides, donc deux fonctions acides. Ces diacides sont présents, par exemple, dans les lièges, dans les subérines, sont présents dans les écorces, ça, ce sont des tissus de protection de végétaux, mais également, le groupe acide peut provenir de l'oxydation d'un acide gras. La même chose pour les hydroxyes, hydroxy-COH, acide, alpha-hydroxyacide, donc sur le carbone numéro 2, ici, ça, c'est un produit d'oxydation microbienne d'acide gras, caractéristique. Ici, c'est l'oméga, donc sur l'autre carbone. C'est un petit peu plus compliqué. L'origine est double. Soit c'est une oxydation terminale d'acide gras, soit il est présent dans les tissus de protection des végétaux, là également. Donc là, effectivement, il y a un doute. Autre catégorie intéressante dont j'aurais besoin tout à l'heure, ce sont les glycérides, les triglycérides. Bon, prenons une molécule de glycérol, 3 carbones, 3 fonctions OH, 3 groupes alcool. Ces trois groupes OH expliquent la viscosité hein, du glycérol, la glycérine, si vous voulez, et sa solubilité dans l'eau. Vous ajoutez 1, 2 ou 3 molécules d'acide gras, vous combinez, ça se fait biologiquement, et vous avez des monodis ou triglycérides, ce qui nous pose quelques problèmes, voire au moins certains d'entre nous. Ces triglycérides ayant l'origine végétale ou bactérienne. Les stérols également sont intéressants parce que ce sont des molécules qui sont relativement résistantes. Là, ce sont des molécules cycliques, hein, donc faites de carbone, hydrogène, hein, c'est la même chose. Donc on a ici le cholestérol qui est typiquement animal, comme vous le savez. Si on ajoute ici deux atomes d'une chaîne CH2-CH3, eh bien on aura l'éthylcholestérol qui, lui, est typiquement végétal, végétaux supérieurs. Hein. Et si on rajoute une chaîne avec 3 atomes de carbone, c'est le propyl, et lui est typiquement alguaire. Donc vous voyez, on a un certain nombre de marqueurs, hein, j'en ai oublié un, je crois, qui sont les OPAN, dont vous avez peut-être entendu parler. Bon, les OPAN, ce sont, bon, retenons cette partie-là, c'est une structure polycyclique, assez résistante, présent dans les fougères, mais l'origine essentielle, c'est le bactériopan tétrole, qui est ici, c'est une molécule qui rigidifie un petit peu les membranes. Donc dans les sols, on va les trouver sous forme d'hydrocarbures, on perd ceci, hein, sous forme d'hydrocarbures ou d'acides. Eh bien, il faut savoir que dans les sédiments anciens, dans les roches-mères pétroligènes, eh bien, ces OPAN sont modifiés. Vous avez des modifications, bon, je vous demande juste de me croire, hein, ici, au niveau de la disposition d'un cycle par rapport à un autre, vous avez deux possibilités, alpha-bêta ou bêta-alpha. Eh bien, ça, les pétroliers recherchent ces molécules. Quand on les trouve dans une roche-mère, ça veut dire qu'elle a produit du pétrole et on va chercher le réservoir. Quand vous trouvez ces alpha-bêta ou bêta-alpha OPAN dans un sol, vous pouvez être sûr, c'est une contamination pétrolière. Là aussi, c'est intéressant. Et vous savez que, hélas, les contaminations pétrolières ne sont pas rares. Alors maintenant, on va passer aux formes macromoléculaires. Les lipides, c'est le plus simple. Les formes macromoléculaires, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des lipides simples que l'on vient d'étudier pour partie, mais il y a également des polymères lipidiques, donc des lipides macromoléculaires. Il y a des acides fulviques, des acides humiques, de l'humine. Alors là, comment peut-on faire ? Eh bien, on ne peut pas étudier directement ces composés, ces molécules, ces macromolécules. En effet, on ne dispose pas de l'outil analytique à l'heure actuelle. En plus, ces matières sont insolubles, sont hétérogènes, et donc nécessairement, on doit procéder à une approche dégradative. Alors, approche dégradative, elle se fait par des réactions chimiques sélectionnées, pour faire telle coupure et pas telle autre, dans la mesure du possible, dans le cas idéal, ou par des techniques de dégradation thermique, ce sont les techniques de pyrolyse qui sont en plein développement actuellement pour l'étude des macromolécules. Alors le but du jeu, par voie chimique ou par pyrolyse, ça va être tout simplement de prendre le biopolymère, de le casser, d'identifier les morceaux et ensuite d'essayer de reconstituer la structure originelle. Inutile de vous dire que c'est très difficile, puisqu'il y a bien sûr un grand nombre de combinaisons possibles. Alors, il y a quand même des techniques globales qui sont les techniques spectroscopiques. Vous avez l'infrarouge, l'ultraviolet, également la résonance magnétique nucléaire, en particulier du carbone, carbone 13. Et je vais juste donner un exemple ici. Donc, par résonance magnétique du carbone 13, bon, c'est une technique proche des techniques d'imagerie médicale que vous connaissez, on va pouvoir distinguer les divers atomes de carbone. On va prendre l'exemple de l'humine du marais Poitevin, qui est un échantillon qui a été traité au laboratoire. Alors, vous avez ici, sous ce pic, tous les carbones dits aliphatiques, c'est-à-dire tout ce qui est CH3, CH2, CH2, etc., les chaînes sans autre fonction, qui se situent ici. À côté, ces deux pics, vous avez les carbones liés à des oxygènes. Alors, dans les substances humiques, c'est essentiellement des celluloses, des hémicelluloses. Ensuite, on va avoir des carbones aromatiques à ce niveau-là. Carbone aromatique, c'est pour beaucoup des constituants, des briques élémentaires de la lignine, où il y a un certain nombre de structures aromatiques. Et ensuite, vous avez ici les groupements CO, des cétones, des acides, etc. Alors, ce qui est intéressant sur ces deux échantillons, c'est de voir que les acides humiques de ce sol volcanique sont presque exclusivement aromatiques, il y a un petit peu de CO, alors qu'ici, les structures aromatiques étaient beaucoup moins importantes. Donc, vous voyez que d'une origine d'un milieu à un autre, d'un sol à un autre, on peut avoir des caractéristiques assez différentes. Alors, en mesurant la surface, c'est l'appareil qui le fait, la surface des pics, on a, en théorie, la proportion relative des types de carbone. Mais, bien sûr, ces renseignements ne sont que des renseignements globaux. On ne sait rien à l'échelle moléculaire, si vous voulez. Alors, l'investigation de la structure fine des formes organiques macromoléculaires des sols est très récente. Ça, c'est dû au développement d'un certain nombre d'outils. Et les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que ces composés humiques sont constitués, selon les milieux, selon les échantillons, de molécules d'origine végétale, d'origine microbienne, et avec une catégorie médiane des molécules transformées. Alors voici ici, bon, on ne va pas s'attacher aux détails, on a considéré sur le plateau de mille vaches de l'humine, donc le résidu le plus compliqué, et puis on a utilisé une réaction chimique spécifique, on a cassé, on a analysé un certain nombre de morceaux. Parmi ces morceaux, on trouve des acides gras, qui sont ici. Vous voyez que là, on va retrouver les paires de C20 à C32, donc là, on peut dire que c'est une origine végétale, il n'y a aucun problème. Ici, bon, C16, C18, palmitique, stéarique, ubiquis, on ne peut rien dire. Par contre, ici, on trouve iso et anti-iso, les acides ramifiés dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, eux, sont typiquement bactériens. Donc là, on peut conclure à une double origine du matériau considéré. Pour les acides humiques correspondants, eh bien là, on a très peu d'acides gras végétaux, donc on retrouve les bactériens ici. Donc on peut dire que ces acides humiques de cet échantillon-là proviennent essentiellement de matériaux bactériens. Bon, j'ai un autre exemple, je vais passer très rapidement, pour toujours dans la même réaction, des hydroxyacides. Donc là, il y a deux fonctions, deux fonctionnalités. Donc là, on va trouver une origine végétale, ça ne pose aucun problème. Par contre, ici, eh bien, là, pour l'humine, c'était les acides humiques, j'ai oublié de le dire. Pour l'humine, eh bien, là, bon, on a une origine végétale. Par contre, ici, on se pose tout un tas de questions. Bon, on ne va pas entrer dans le détail. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser, de faire d'autres réactions, d'analyser d'autres morceaux, etc. Donc, voilà, si vous voulez, comment on procède dans cette chimie-là. Alors, au total, les différences, les résultats que nous avons obtenus au laboratoire, puisque nous travaillons beaucoup sur ce point-là, montre que sur nos échantillons, on a quand même des différences assez importantes entre acide fulvique, humique et lumine. Au niveau des acides fulviques et des acides humiques, on a trouvé dans les échantillons étudiés beaucoup. Alors ça, ce sont des structures aromatiques, ça, ce sont des briques élémentaires de la lignine. Par contre, au niveau de lumine, lumine a une structure assez différente des acides humiques, ressemble aux lipides macromoléculaires, avec une réticulation assez importante. Et donc ça, c'est un point intéressant, puisqu'on avait cru pendant longtemps qu'on avait une filiation acide fulvique, acide humique, humine, puis pétrole, enfin roche pétroligène et pétrole. Et là, je pense que l'analyse fine est en train de montrer que ça n'est pas si simple. Alors, pour terminer ce point, voici ici un modèle qui a été publié par Schulten, qui vous montre une structure très partielle, c'est juste à titre d'illustration, hein, d'un acide humique. Donc vous avez ici, en bleu clair, ce sont les atomes de carbone. Alors les atomes sont représentés par des sphères. Hein. En blanc, vous avez l'hydrogène, l'oxygène est en rouge, et en bleu foncé, vous avez l'azote. Par exemple, ici, vous reconnaissez une chaîne CH2, hein, une chaîne aliphatique. Alors ça, ce n'est qu'un petit bout hein, d'un acide humique. Bien, alors, le dernier point de mon exposé concerne maintenant la transformation donc, du carbone organique et le pouvoir dit auto-épurateur du sol, avec donc deux points. Alors si on veut étudier les mécanismes de biotransformation du carbone organique, il y a un certain nombre de recettes, mais une des plus simples, sans doute, et de modifier les conditions de milieu. Par exemple, si on travaille sur des sols pauvres, carencés, on va essayer de corriger ces carences. L'autre technique possible va être d'ajouter des substrats organiques purs ou en mélange, et ceci à des concentrations raisonnables. On effectue un suivi à divers temps d'expérimentation, en comparaison avec des témoins qui n'ont évidemment rien reçu ou rien subi, et on effectue cette étude au laboratoire, donc en conditions d'incubation à 20-24 degrés, pendant des temps qui ne dépassent pas 2 mois normalement, et parallèlement au champ. Alors, au laboratoire, ça permet, les conditions de température, d'accélérer un petit peu les processus, hein, de les mesurer, également, surtout, de mesurer la minéralisation, c'est-à-dire la quantité de carbone transformée en CO2. Alors là, je vous citerai quelques exemples que je connais particulièrement bien. Bon, on a travaillé pour mettre en exergue les mécanismes d'évolution de la matière organique sous les sols des Landes de Gascogne, qui sont des sols sableux, très pauvres, très riches en matière organique toxique. Et donc, on a modifié les conditions de milieu par rapport à des témoins. On a ajouté de l'azote, du phosphore, des argiles, du fer, etc. Et on a essayé de voir à divers temps tout ce qui pouvait se passer. Alors, une des premières conséquences était de voir que le taux, en corrigeant ces carences, le taux de mauvaise matière organique, de lipides toxiques, si vous voulez, diminuait, ce qui est une bonne chose pour l'amélioration des sols. On a également travaillé sur des placettes qui étaient utilisées par l'INRA à Bordeaux pour l'amélioration de la sylviculture. Ils avaient des traitements azote, phosphore, potassium combinés enfin, depuis 20 ou 30 ans qui amélioraient la sylviculture. La question qu'on se posait était les végétaux, enfin les pins maritimes croissent plus vite, il y a plus de molécules toxiques de terpènes qui arrivent au sol, qu'est-ce qu'il en est de la fertilité à moyen long terme? Eh bien, on a pu montrer que le taux de lipides diminuait et que c'était évidemment une très très bonne chose pour l'amélioration du sol. Alors, très rapidement, hein, voilà ce qu'on en a pu voir. Donc, minéralisation du carbone Donc on diminue le taux de carbone organique, ce qui, dans ce cas précis, était une très bonne chose. Ensuite, une oxydation ménagée. Si RH, je vais prendre le début, hein, RH étant un hydrocarbure, eh bien, on va incorporer un oxygène, c'est une oxydation, on va faire un alcool qui a une durée de vie généralement assez courte, ensuite on va oxyder en acide, et l'acide, par un processus normal et bien connu, va perdre à chaque fois deux atomes de carbone, et ainsi, petit à petit, on va donc minéraliser toute cette matière organique. Également, l'hydrolyse enzymatique, qui est un point intéressant, vous avez ici une liaison dite ester, hein, c'est la combinaison. Un ester, c'est une combinaison d'un acide gras et d'un alcool gras, ou si vous prenez un glycéride, comme on l'a vu tout à l'heure, combinaison d'un acide gras et de glycérol, eh bien, la microflore du sol est capable d'hydrolyser tout ceci, donc de libérer acide et alcool qui, chacun, vont pouvoir suivre une voie de dégradation particulière. Et parallèlement, on a des réactions inverses de bioestérification, mais là, avec des motifs différents, et éventuellement, dans la discussion, je pourrais vous faire voir quelques exemples. Alors, autre réaction intéressante que l'on a pu voir, c'est l'oxydation de l'acide déhydroabiétique. L'acide déhydroabiétique, c'est un constituant des pins maritimes, très résistant, puisqu'on l'a trouvé dans des sédiments intacts, dans des sédiments de plusieurs millions d'années. Et, par des ajouts de phosphore, on peut, vous voyez, introduire ici un oxygène, et à partir de là, eh bien, la molécule va éclater, et on va donc avoir de la biodégradation. Deuxième point, qui sera le dernier point, qui concerne, donc, est-ce qu'on peut utiliser le pouvoir auto-épurateur des sols, est-ce qu'on peut assimiler un sol à un incinérateur biologique? Alors ça, ce sont des choses qui datent d'une trentaine d'années. Hein. On est tenté d'utiliser le sol pour biodégrader des déchets industriels, déchets organiques, les plus divers, les avantages étant que, évidemment, les coûts sont extrêmement réduits. Alors il y a eu quand même un certain nombre de questions qui ont pu se poser. Alors effectivement, le principe est intéressant, puisque dans la plupart des sols, on a des taux de carbone organique qui diminuent. Si on peut en ramener, ça peut être évidemment une très bonne chose. Mais en fait, les quelques cas qui ont été parfaitement étudiés montrent que vraiment il faut faire très très attention et qu'il faut absolument étudier en détail chacun des cas. Alors, le premier cas dont je parlerai, ce sera le cas d'hydrocarbures. Donc, nous avons travaillé il y a une quinzaine d'années sur une coupe pétrolière, à la demande du ministère de l'Environnement, qui était pendue sur un sol actif. Et on a suivi l'évolution pendant 3 années. La dose initiale était de 40 km². Et un seul apport en 3 années. Parallèlement, on a suivi l'évolution d'une molécule modèle. C'est un hydrocarbure en C20, qu'on appelle l'éicosane. Et là, on a pu travailler sur plusieurs types de sols. Alors, qu'est-ce que l'on a pu montrer ? Eh bien, on a pu montrer que, bon, certaines choses que l'on connaissait, hein, voici ici l'hydrocarbure initial, eh bien, avec le complexe cytochrome P450, on va avoir incorporation d'oxygène, c'est comme tout à l'heure, hein, formation d'un alcool, puis d'un acide. Et cet acide, qui était l'acide en C20, hein, qui correspond à l'hydrocarbure, va se couper, donc perdre régulièrement 2 atomes de carbone, donc on passe à l'acide C18, C16, C14, etc. Donc ça, c'est une voie tout à fait normale. On a pu observer quand même dans 3 sols différents l'apparition de ce qu'on appelle l'éicosène, c'est-à-dire d'un hydrocarbure insaturé. Vous voyez, on enlève 2 hydrogènes et on fabrique cette molécule insaturée qui peut ensuite s'oxyder, soit ici pour donner ça, soit ici pour donner ça, et ensuite on va perdre à chaque fois évidemment 2 atomes de carbone. Alors cette réaction était intéressante parce qu'elle n'avait été observée qu'au laboratoire avec des souches pures, et jamais avec une microflore naturelle comme dans des sols. Nous l'avons, elle n'est pas générale, mais nous l'avons quand même observée dans 3 sols, ce qui veut dire qu'elle n'est pas si rare que ça. Alors ça c'est intéressant parce que plus un substrat à une chaîne carbonée longue, plus il est difficilement biodégradable. Si on arrive à faire l'oxydation terminale, mais en ajouter une insaturation, une double liaison, eh bien c'est intéressant puisque ça, c'est un site d'oxydation privilégié. Alors, au total, donc voici le schéma qu'on a pu observer. Donc, pour l'hydrocarbure initial, donc s'oxyde en acide C20 puis en acide plus court, soit donné, il peut également donner l'hydrocarbure insaturé qui donne les acides correspondants, et on peut également avoir la désaturation de l'acide saturé, acide insaturé. Ça, sont des réactions classiques qui se passent régulièrement dans notre foie, par exemple. Eh bien, toutes ces molécules issues de l'hydrocarbure C20 initial, on a pu les retrouver dans, liées aux argiles. Alors ça, c'est la fraction liée aux argiles, les lipides associés. Donc on trouve ici, vous voyez les hydrocarbures végétaux, ça c'est normal, mais on va trouver ici l'hydrocarbure ajouté, donc qui est passé dans les feuilles d'argile et qui est maintenant fixé. On trouve également l'hydrocarbure insaturé ici qui l'accompagne. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des immobilisations par les argiles, mais également ces molécules peuvent intégrer la structure des macromolécules. Nous avons pris, à divers temps, peu importe, les lipides macromoléculaires, on leur a fait subir un traitement comme tout à l'heure, on a coupé quelques liaisons. Et on s'est aperçu, alors vous avez ici en blanc, c'est le sol témoin. Donc on a ici les acides gras, donc de C36 à C14. Et on s'est aperçu que dans le sol auquel on avait ajouté l'hydrocarbure C20, eh bien on va retrouver l'acide C20 qui n'est pas présent dans le témoin, qui provient de l'hydrocarbure. On va retrouver les acides C20 saturés et on va retrouver les acides plus courts. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une rétention plus ou moins importante de molécules ajoutées dans ces macromolécules naturelles du sol. Alors, au niveau de l'étude au champ dont j'ai parlé sur le sol actif, eh bien, on a montré qu'après 3 années, il restait un tiers du carbone initial, c'était devenu du carbone humique, il n'était plus extractible. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, limitation, c'est que la dose, je vous ai dit, elle était de 40 tonnes par hectare. Il faut surtout faire attention aux doses apportées au sol. En effet, si les doses sont trop importantes, et d'autant plus que le sol sera moins actif, eh bien, on peut avoir des phénomènes de véritable intoxication. Et phénomène d'intoxication, ça veut dire que la microflore ne travaille plus, et ça veut dire qu'à côté des processus dont j'ai parlé, vous aurez de la migration en profondeur et migration vers, par exemple, les nappes phréatiques. J'ai là encore des exemples où on a montré que dans des cas, les hydrocarbures avaient atteint largement 1,50 m. L'autre point qui concerne les hydrocarbures, c'est la présence de métaux lourds, puisque les hydrocarbures, en fait, ce sont des résidus lourds de l'industrie pétrolière. Il y a des métaux lourds, et ça pose le problème des métaux lourds dans les sols. C'est le même problème avec l'épandage des bouts de stations d'épuration, si vous voulez, on pourra en parler dans la discussion. Dernier cas, qui concerne le problème des graisses, qui sont de plus en plus largement épandues sur des sols. Ça évite de construire des stations d'épuration. Et dans certaines régions, où il y a des grosses industries alimentaires, mais qui ne peuvent pas construire ces stations d'épuration. Donc on a travaillé sur le devenir de graisses qui sont épandues sur un certain nombre de sols différents, donc autour d'une industrie agroalimentaire. Ils sont épandus chez des agriculteurs avec des contrats. Et parallèlement, nous avons travaillé avec une graisse modèle, on a pris un triglycéride, on va retrouver, donc glycérol avec 3 acides C18. Donc ça, c'était notre graisse modèle. Et donc, on a suivi l'évolution donc au champ et dans l'expérimentation avec la molécule modèle. Eh bien, on a retrouvé les mêmes résultats un petit peu que précédemment, c'est-à-dire qu'on a très rapidement, dans 3 sols différents, une hydrolyse très rapide. Vous voyez, on va couper ici la molécule graisse, et on va libérer les acides. Et ces acides, donc ce sont les acides C18, qui vont donner du C16, C14, C12, etc. Bon, il y a d'autres réactions dont je ne veux pas parler. De la même façon, on a pu montrer, ici, après addition de tristéarine, que on a un sol témoin ici qui est en blanc. Alors ici, c'est une distribution de oublions esters, d'acide gras, là encore, j'ai pris des exemples les plus simples, d'acide gras. Donc, dans un sol témoin en blanc, un sol après une semaine et un sol après 4 semaines de traitement. Et vous voyez que, je crois que c'est particulièrement net, que déjà dès une semaine, mais également à 4 semaines, dans les lipides complexes, l'acide C18 qui provient de la tristéarine s'est incorporé dans la macromolécule. Alors dans ce cas, c'est intéressant parce qu'on arrive à une augmentation du taux de matière organique. On observe les mêmes résultats au champ. Et c'est intéressant parce que ces sols autour de cette industrie sont des sols assez mal structurés, donc très fragiles. Et on a pu montrer que l'apport de carbone organique avait une conséquence extrêmement intéressante sur la stabilité structurale du sol. Ça, c'est été mesuré par la méthode de Hénin, mais enfin, peu importe. On a un sol ici, Goff, c'est son nom, donc un taux d'agrégat stable de 5. Après épandage, 21,4, on multiplie par 4. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dans l'autre sol, le taux d'agrégat stable est multiplié par 2. Donc là, on a une pratique qui peut être intéressante pour ces sols. Donc, on a quelque chose d'intéressant. Et on peut ajouter que ces graisses sont épandues en phase aqueuse, il y a quelques éléments minéraux, mais en phase aqueuse, et que pour les agriculteurs, il y a une augmentation, qui cultivent du maïs, il y a une augmentation de 40% des rendements. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc là, on a une technique plus intéressante que de concentrer une pollution en station d'épuration. Là, manifestement, ça ne semble pas être une pollution, sachant que les métaux lourds sont totalement absents, ce sont des graisses d'origine animale et végétale, tout à fait naturelles. Donc ça, c'est une technique intéressante pour la gestion de l'eau, également pour la gestion des déchets organiques, également pour l'amélioration de ces sols qui sont fragiles, comme je l'ai dit. Alors le seul problème qui est signalé, c'est la gestion des effluents en hiver. Il y a trop d'eau pour les agriculteurs, par contre, il n'y en a pas assez en été, bien sûr. Bien, alors en conclusion, la matière organique présente dans les sols est extrêmement complexe. Voici ici un résumé de tout ce que l'on a vu. Et je pense qu'il importe de poursuivre l'investigation structurale de ces diverses catégories de matière organique et également d'étudier toutes les transformations qui sont possibles. Alors, il est établi que les lipides macromoléculaires, les composés humiques peuvent incorporer dans leur structure, des molécules naturelles certes, mais des composés xénobiotiques ou halochtones. Ceci peut être intéressant parce que ça peut être une sorte de mémoire de la matière organique, mais ceci est également dangereux parce qu'il y a des dangers de pollution. On sait, et ça a été démontré il y a 3 ou 4 années, que les substances humiques qui migrent en phase aqueuse incorporent par liaison chimique très forte des produits phytosanitaires qui migrent vers les nappes phréatiques. Bien. Autre message concerne les zones humides qui contiennent des taux extrêmement importants de matière organique. Ces zones humides jouent un rôle extrêmement important au niveau de la filtration des eaux naturelles. Et par exemple, pour la région Poitou-Charentes, c'est une zone tampon entre les zones agricoles et les zones ostréicoles. Et je pense qu'il serait important de les préserver. Beaucoup sont classés maintenant, de les préserver et de limiter leur mise en culture. Et pour terminer, je vous propose une vue d'une tourbière. Là, ce n'est pas un sol tourbeux, c'est d'une tourbière. C'est la tourbière de Longéroux sur le plateau de Millevaches. Je pense que cette vue est propice à une réflexion. Merci beaucoup.
Deux questions, s'il vous plaît. Vous n'avez pas parlé des nitrates. Alors, est-ce que c'est un rapport avec votre présentation ? Et deuxième question, concernant au niveau des épandages des graisses, est-ce que en épandant des graisses animales avec le problème de l'ESB, est-ce que l'épandage de prions, est-ce que ça peut avoir un fameux réservoir ou des choses comme ça ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Bien, alors pour les graisses, effectivement, épandage des graisses, ce ne sont pas des graisses, je crois que j'ai oublié de le dire, ce ne sont pas des graisses à l'état brut. Elles subissent quand même un pré-traitement hein, dans un digesteur. Elles sont en partie hydrolysées, mais bon, les études que nous avons pu faire montrent qu'elles ne sont pas totalement hydrolysées. Et c'est un épandage en phase aqueuse. Hein. Donc avec quand même des taux, en plus des taux qui sont limités. Hein. Ce n'est pas un épandage de graisse massif au niveau du sol. Alors au niveau des prions, etc., je pense qu'on considère, j'ai été contacté récemment pour ce problème, pour un site où on avait stocké des graisses en attendant de savoir ce qu'il fallait faire, on considère qu'au niveau des sols, le temps est de 4 ans, mais je pense qu'on manque totalement d'éléments. Alors pour mieux répondre sur ce point des graisses, j'ai dit et je redis que chaque cas doit être étudié très précisément avant d'agir. On ne peut pas généraliser. Ça, je crois que c'est... Je pense qu'il est illusoire de vouloir apporter des graisses sous forme solide, ça ne marchera pas. Il y aura rapidement une... C'est un problème de dose également. Il y aura très rapidement une toxicité vis-à-vis de la microflore du sol. C'est clair. Alors, le cas des nitrates... je pense que tout le monde connaît le cas des nitrates. Bon, on peut espérer certains. Il y a quelques expérimentations qui vont débuter, peut-être d'essayer. Bon, on est dans beaucoup de zones en France, il y a trop de nitrates, hélas. Essayer d'apporter la matière organique, peut-être pour immobiliser un petit peu cet azote des nitrates et le maintenir un peu dans le sol, sans qu'il soit au fur et à mesure minéralisé. Bon, les nitrates, je ne sais pas si j'étais clair. Bon, apporter des nitrates, ça dope un petit peu la microflore du sol. Qui va consommer la matière organique hein, c'est ça que... Est-ce que ça répond à votre question ?
Monsieur. Oui, c'est vous.
Oui. Quelles sont les principales souches bactériennes qu'on rencontre dans les sols ? Et quels sont les métabolites ? Principaux métabolites excrétés par ces bactéries.
Là, c'est vraiment une colle parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Vous avez des azotobactères, vous avez tout un tas de choses, tout un tas de souches bactériennes qui ont des activités bien précises. Là, je pense qu'on pourrait prendre un catalogue. Hein.
Monsieur, là-haut.
Mais les souches. Alors, les souches, en fait. Préexistent dans le sol et au fur et à mesure des besoins ou des apports, elles se développent ou s'enkystent. Hein, par exemple, si vous amenez des hydrocarbures, vous allez développer des souches de type Pseudomonas, oleovorans, etc., hein, qui vont se développer parce qu'il y a des hydrocarbures. Mais c'est vraiment au niveau d'une microflore naturelle, le sol, c'est plusieurs centaines, peut-être milliers de souches.
Madame et puis monsieur. Madame
Voilà. Vous avez soulevé le problème de la composition des sols au départ. Oui. Vous avez mentionné des polysaccharides et des protéines, oui. Mais vous avez dit qu'ils étaient très vite utilisés. Oui. Je reprends un peu la question une question précédente, à savoir, pour autant que je sache, je sais très peu bien sûr, les prions, je pense à celui de l'ESB, sont de nature protéique. Mais vous avez quand même mentionné la possibilité d'absorption par les substances humiques de macromolécules.
Oui.
Alors je repose cette question, le sol peut-il être un réservoir de prions à partir du moment où on l'y aurait apporté ?
Il faut expérimenter, madame. Je ne peux pas vous... En principe, les protéines sont rapidement utilisées, mais là je ne peux pas répondre à votre question. Je pense que tout le monde se pose cette question-là. Je pense qu'il y a eu des sites de stockage de ces graisses. Hein, je pense qu'il serait intéressant, effectivement, de travailler, d'étudier ces substances chimiques avec les techniques qui se développent hein, et essayer de voir ce qu'il y a, bien sûr. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Je pense que tout est à faire.
Monsieur, oui.
Oui, merci. Je crains que mes questions dépassent le domaine spécifique de votre intervention, qui par ailleurs m'a fort intéressé. Je me permets cependant de vous les poser, ces questions, si vous voulez bien accepter d'y répondre. Il s'agit d'un domaine d'espace-temps différent. Alors je voudrais bien savoir si Les sols qui se forment au fond des océans ont-ils en moyenne la même composition chimique que les sols que j'appellerais atmosphériques? Que se passe-t-il lorsque la tectonique des plaques fait surgir ces sols hors des océans? Est-ce la nouvelle biologie qui se développe à ce moment-là qui constitue une nouvelle composition chimique de ces sols? Et petite question complémentaire, l'importance des éléments extraterrestres qui tombent régulièrement sur notre planète, mais je la suppose infime, cette importance. Accepteriez-vous éventuellement de répondre à ce genre de questions?
En tout cas, vous suscitez des pistes de recherche extrêmement intéressantes, mais des recherches pluridisciplinaires, manifestement. Bien, au niveau des sols dont vous parliez tout à fait au départ, bon, je pense que moi, je ne suis pas spécialiste de sol, je suis un chimiste. Hein. Bon, je pense qu'un sol, c'est un mélange de matière minérale, de matière organique, et il est bien évident que la matière organique présente sur un sol donné peut et doit être différente de celle présente dans un autre sol ou formée dans d'autres conditions. Si vous parliez de fond marin, la matière organique est quand même relativement différente. Alors, il y a quand même une question qui intéresse quand même beaucoup de scientifiques de plusieurs disciplines, c'est de savoir, de remonter, bon, je vous ai parlé tout à l'heure d'âge des sols, on pourrait déterminer l'âge si on avait le T0, hein, tout à fait la phase initiale, on ne l'a pas, et actuellement, il y a un certain nombre de recherches qui se développent, auxquelles je participe d'ailleurs, pour essayer de prendre au niveau de sols un petit peu particuliers, de sols de Finlande ou d'ailleurs, qui n'ont pas beaucoup vécu, entre guillemets, d'essayer de voir quelles sont les formes de matière organique présentes dans les argiles et que l'on ne peut pas atteindre, hein, qui sont immobilisées. Alors, ceci, on va essayer par des techniques de pyrolyse, etc., dont j'ai parlé. Quant à la dernière question, je n'ai vraiment aucune idée. Là encore, je crois que je ne sais pas si quelqu'un... Je n'ai jamais rien lu là-dessus, je ne sais pas. Ou alors j'ai...
J'ai vu quelques articles qui évoquent qu'il tombe sur Terre l'équivalent de milliers de tonnes. Bien entendu, une grande partie de cette retombée touche les océans, évidemment, mais il me semble que la Terre en reçoit une certaine quantité.
Oui, effectivement, je n'ai pas tout à fait bien compris.
Je suis surpris que vous n'ayez jamais entendu parler
Non. Je n'avais pas tout à fait compris votre question. Effectivement, il y a des... Bon, je pensais au rayonnement cosmique, etc., mais tout ça, c'est bien connu au niveau du carbone 14. Non, il y a effectivement toutes les zones autour des météorites. Hein, bon, il y en a un certain nombre. Moi, je n'ai jamais travaillé là-dessus, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des caractéristiques effectivement particulières. Je ne suis pas sûr que ça soit au point de vue organique, mais peut-être plus au niveau minéral. Mais effectivement, il doit y avoir, bien sûr, un impact certain.
Bien, encore une dernière question. À deux autres, mais très bien. Parce qu'on a un peu de temps. Donc deux dernières questions, voilà. Allez-y.
Est-ce que vous me conseilleriez de mettre un peu d'huile de tournesol dans mes plantes vertes?
Je ne suis que chimiste. Au niveau des plantes, je ne sais pas. Peut-être au niveau de... Ça dépend du sol, hein, avec lequel vous travaillez.
Pourriez-vous dire un mot sur le devenir des sols sur la longue période? Est-ce qu'on peut prévoir un tant soit peu le devenir donc des sols à l'échelle planétaire, quoi, sur une période, sur la moyenne et sur la longue période, de telle sorte qu'on pourrait moduler le facteur anthropique, quoi, avoir un... Mm-hmm.
Alors là, c'est une
du rôle question. Du facteur anthropique. Quoi. Voilà,
c'est une tout. Question très vaste, mais très intéressante. Bon, il y a le problème des taux de matière organique, il y a qui décroissent. Comment va-t-on réagir? Il faudra réagir, je pense. Le problème de, de déboisement en milieu tropical ou autre, hein, des sols qui disparaissent. Donc voilà, peut-être un élément de réponse. Vous pouvez me repréciser votre question, là, j'ai oublié la deuxième partie.
Oui, voilà, d'accord.
Il y a un problème dont je n'ai pas pu parler, qui est l'effet de serre. L'effet de serre. Qui est l'effet de serre avec les taux de CO2 qui augmentent. Et là, il y a des scénarios, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. On sait que si le taux de CO2 il est de 350 parties par million actuellement, s'il double, on risque d'avoir une augmentation de la température de 4 à 5 degrés. Et à partir de là, il y a deux schémas. Il y a un schéma qui dit que... Enfin, un schéma, une hypothèse, qui dit que la Terre, enfin, le milieu va s'adapter. Et une autre hypothèse dit que ça va être un scénario catastrophe. Alors, pour les gens qui travaillent sur ce problème, ce n'est pas mon cas, pensent qu'il va y avoir des modifications assez profondes au niveau des végétaux, en tout cas. Ça, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites là-dessus. Un accroissement des... accroissement de la taille des végétaux, accroissement des graines, etc. Bon, je pourrais retrouver, j'ai 2-3 éléments ici. Ça, je pense que ça, c'est une question extrêmement importante.
Bon, mais... pardon.
Non.
Alors, toute dernière question. Voilà, voilà.
Bonsoir. Je voulais vous poser une question au regard des pays désertiques ou des pays... très chaud comme le Maroc, qui ont des terres apparemment plutôt sablonneuses. Et comme vous travaillez sur les compositions du sable des Landes et que vous travaillez sur l'amélioration justement de cette terre, je voudrais savoir si dans le futur, on pourrait espérer améliorer justement les terres désertiques ou les pays qui sont assez importantes en Afrique pour espérer justement au niveau culturel conquérir ces terres et faire en sorte que des pays qui se trouvent plutôt sous-alimentés ou puissent voir leurs conditions s'améliorer grâce à ce type de recherche. Donc gagner sur le désert pour pouvoir espérer de voir des cultures prospérer et améliorer justement le rendement et faire que ces pays deviennent plus autonomes au niveau alimentaire.
Je crois que pour certains pays, le grave problème est de maintenir les sols ou de faire qu'ils ne disparaissent pas. Alors le problème des landes du Médoc et des pays tropicaux, des pays du Maghreb, ça n'est pas du tout le même problème. Dans un cas, c'est une accumulation de molécules toxiques, si vous voulez. Dans le cas des pays du Maghreb, et je dois travailler très bientôt sur des sols du Maroc, c'est un problème de turnover de la matière organique qui est trop important. Alors, je pense que la solution peut être, mais je répète, en étudiant bien chaque cas, il y a par exemple pour le Maroc beaucoup d'industries agroalimentaires, pourrait être de ramener de la matière organique, puisque cette matière organique, naturellement, là, c'est pas dû à l'homme, hein, naturellement se dégrade trop vite, serait d'amener, dans la mesure du possible, du carbone organique déchet propre, si je puis dire, hein, donc sans métaux lourds, etc. Alors, il existe également d'autres solutions qui sont actuellement testées au Maroc, qui est de rajouter dans les eaux d'irrigation, puisqu'on pratique beaucoup l'irrigation, de rajouter des substances humiques naturelles qui viennent d'Espagne, hein, donc qui sont ajoutées en phase aqueuse. Alors il faut savoir quand même que l'industrie chimique, mais pas que chimique, a des idées intéressantes ou pas, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui serait d'apporter des matières organiques, des composés humiques synthétiques, donc fabriqués en usine, de les apporter au sol comme engrais retard pour remplacer la fumée organique. Alors, je pense que l'idée est extrêmement intéressante. La pratique est totalement interdite en France à l'heure actuelle. Je crois qu'elle est testée dans certains autres pays européens. Je pense que ça peut être une technique intéressante. Mais à condition, là encore, de bien avoir tout mesuré, c'est-à-dire de bien avoir réalisé des études sur site et surtout de ne pas ajouter n'importe quoi.
Bien, ben
je
merci.
Pense là qu'il y a des pistes intéressantes.
Merci beaucoup.